Canal Sud 92.2 et on est à l'écoute du magazine de Marie-Madeleine qui aujourd'hui se poursuivra à partir de 14h avec deux invités exceptionnels autour du plateau. Marie-Madeleine vient s'installer et elle m'entend. Alors, salut à tout le monde, on est ensemble jusqu'à peut-être 15h, on va voir un petit peu le temps qu'on prend.
Bonjour Clélia.
Et donc on est en compagnie de Paco, Chabi et Marie-Madeleine.
Et nous allons causer théâtre. Et c'est vrai que normalement, je termine le magazine bon, à 14h. Mais comme là, il n'y a pas de rediffusion et que c'est Clélia a amené ses deux invités, surprise, enfin, à moitié surprise, et que je ne vais pas les croiser tous les jours, qu'ils ont des choses intéressantes à raconter, j'ai décidé voilà, de les interviewer. Ils ont répondu positivement à ma demande, dont je vous remercie tous les deux.
Merci à vous.
Merci à vous pour l'invitation.
Donc, si j'ai bien suivi, les deux, vous vivez en Suisse, c'est ça ?
Non.
Non, vous vivez en Suisse.
Oui, c'est ça.
Et moi, vous, Chabi, vous vivez au Pays Basque, c'est ça ?
Oui, au Pays Basque espagnol, à la part espagnole.
D'accord.
Et à côté à Saint-Sébastien.
Ok, oui. D'accord. Et ah oui, je vous avais demandé tout à l'heure si vous voudriez dire bonjour en basque ou pour écouter le...
bonjour, c'est Egunon. Ça veut dire bonjour exactement. Mais pour maintenant, on dirait Arachaldeon, qui c'est bonsoir pour nous.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, parfait. Merci pour ce... Donc, j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, puisque l'un vivant en Suisse, l'autre en Pays Basque espagnol, et puis comment vous avez décidé de travailler ça. Mais d'abord, la rencontre, c'est important, les rencontres artistiques.
Oui. Nous, on s'est rencontrés lors de notre formation en Argentine, formation théâtrale à la pédagogie Lecoq.
C'est original d'aller en Argentine pour faire une formation.
Oui, on a des parcours différents. Évidemment, lui, il venait du Pays Basque, moi de Suisse, mais j'ai pas mal d'amis en Amérique latine. Étant donné que ma mère aussi est mexicaine, j'ai toujours été passablement attiré par ce continent.
Donc vous parliez déjà la langue ?
Oui.
D'accord.
Oui. Et du coup, on a fait cette année intensive de formation Lecoq là-bas à Buenos Aires.
Oui, contrairement à celle qui est faite en France, c'est plus concentré, enfin plus intensif.
C'est ça. C'est ça. Donc on passe par plus ou moins la même formation. Enfin, comme j'ai pas été à Paris, je sais pas vraiment quelles sont les différences.
Oui.
Mais c'est clairement très intensif et très très concentré.
Entre 1 an et 3 ans, c'est sûr que.
C'est ça.
Et vous pouvez justement en dire les spécificités de cette école parce qu'elle a, elle a une spécificité.
Par rapport à la pédagogie, vous dites ?
Oui.
Alors c'est des anciens de Paris qui ont monté cette école là-bas. Il y avait aussi des anciens de l'ISPA. Thomas Pratky à Londres et qui maintenant est à Berlin. Mais en gros, ça se base vraiment sur la pédagogie de Lecoq complètement. Hein, donc on est passé par beaucoup de territoires dramatiques pendant cette période. Puis c'est aussi comme ça qu'on s'est connus du coup avec Chavi, vu qu'en fait, chaque fin de semaine, on était amené à faire de la création
D'accord.
collective.
Ah, oui.
En duo ou en trio ou parfois même à plus. Et c'était dans le territoire du clown qu'on s'est rencontré avec Chavi. On a commencé à travailler sur un duo. On s'est apprécié. Et puis on s'est surtout retrouvé en fait dans notre propre imbécilité. C'est... J'ai envie de dire ça. Et à la fin de cette période de formation, les questionnements sur le futur, qu'est-ce qu'on allait faire, etc., on s'est dit, quand on rentre en Europe, on aimerait travailler ensemble, puis on va créer une compagnie.
D'accord. Et dans le nom de la compagnie ?
Le nom de la compagnie, alors ça a été beaucoup de recherches, n'est-ce pas ? La compagnie s'appelle Compagnie des Aires Teatro. Des Aires, alors... Pour faire référence à Buenos Aires,
où on s'est rencontrés.
Mais évidemment que c'est aussi un nom qui se décline en plusieurs langues, parce que si on le prononce à l'anglais, ça donne desire, qui fait partie aussi du pedigree de la compagnie où on est très passionné. Il y a désert qui donne un peu en français un peu cet aspect onirique.
Oui, voilà. D'ouverture, d'immensité.
Exactement.
Champ de tous les possibles, quelque
tout
part.
Tout à fait. Et ben, c'est un petit peu ce qu'on se dit. Puis en espagnol, desaire, c'est quelque chose qui est vraiment très sale, enfin vraiment très... comment on pourrait l'exprimer ?
C'est plutôt sans lumière.
Ah oui.
Pas rigolo, mm-hmm. exactement, mais un petit peu connecté à, on se dit, la gracia, non? Je pense que c'est... Il y a quelque chose d'obscurité, là, de, comme la desgracia, ouais. non? Mm-hmm. La desesperanza.
Mm-hmm. Non, le désespoir.
Un désespoir.
Mm-hmm. Oui,
ça. Ah oui, donc ça renvoie à quelque chose, à une sensation, à un ressenti.
C'est un synonyme de ça.
Ok.
Donc c'était un terme qui conciliait à peu près toutes ces dimensions qui en fait font partie de notre esthétique en fait.
Mm-hmm. D'accord. Et tous les deux, avant d'avoir fait cette formation en Argentine, est-ce que vous aviez déjà un parcours dans le monde du théâtre ? Qu'est-ce qui commence ?
Pour moi, c'est un petit peu difficile de m'exprimer en français.
Oui.
Mais
vous pouvez faire en espagnol si vous voulez et bon, vous traduirez pour que les auditrices et les auditeurs comprennent.
Oui. Et sinon, j'ai beaucoup de confiance à Paco. C'est ici. Et je pense qu'il me connaît très bien. Tu peux parler de moi,
ah, okay.
mais plutôt de la musique, de la danse. Mm-hmm.
Vous êtes pluridisciplinaire.
Mm. Oui. Bon.
Ok.
Tu peux parler.
Bah écoutez, alors je vais essayer de le résumer. Hein. au-delà du fait que il a fait une formation de théâtre au Centre dramatique national, c'est ça, de Navarre.
Eh oui.
Donc c'est une formation d'acteur.
Oui, de théâtre. Conventionnel, le théâtre du
oui,
test.
Oui, d'accord, ok.
Du test,
oui. Oui.
Il y a une pratique d'écriture aussi à travers la poésie. Il avait aussi un groupe de musique dans lequel il chantait. Mm-hmm. Et puis, sinon, effectivement, de la danse depuis tout jeune, de la danse folklorique basque,
okay.
avec laquelle, il a tourné avec des groupes dans pas mal de pays du monde, en Colombie, en oui. Estonie.
Estonie, Mexique. Italie, et pour l'Espagne, oui, pour l'Europe.
C'est-à-dire, c'était au sein de l'école, puisque vous dites très jeune, ou c'était à côté?
J'ai commencé quand j'étais 8 ans, je pense, oui. Et j'ai fait ça jusqu'à... 20 ans, plus ou moins. Et après, j'ai también he sido profesor de danza y así, pero como oficialmente lo dejé profesionalmente más o menos a...
Il a aussi donné des cours.
Des cours de danse, de danse folklorique basque, c'est ça?
De ser profesor, non?
Mm-hmm.
Oui.
D'accord. Oui.
Okay. Et comment dirais-je? Les danses folkloriques, c'est toujours particulier, c'est lié à une histoire, à un contexte, mais il y a des choses des fois très codifiées. Et justement, quelle est la particularité des danses basques?
Tu l'as tardé?
Mm-hmm.
Ok. Está muy conectado a la cultura basque, ¿no? O sea, son danzas folkloriques, obviamente.
C'est très connecté à la culture basque.
Y... por suerte o lamentablemente está conectado a la cultura agricultora de pesca, de lo que representa el País Vasco, pero también a la cultura, digamos, en un punto militar, de sangre. Muchas danzas están conectadas también con la parte de la historia, ¿no? De la guerre aussi.
Il y a beaucoup de danses du coup, qui sont connectées avec la nature, avec, avec la mer, avec la proximité des montagnes et de l'agriculture. Mais c'est aussi connecté avec l'histoire du lieu, enfin l'histoire guerrière en fait, du lieu, l'histoire combative.
Sí. Entonces, bueno, yo creo que que la danza, las danzas siempre quieren contar algo. Cada danza representa, pues eso, pues las mujeres que iban a pescar, o sea, que iban a vender el pescado o lo que fuera, ¿no? Contar una historia. Y bueno, esa es un poquito la base, pero después pues se representan normalmente, antiguamente, ahora se conectan más de forma mixta, pero antiguamente eran más o las danzas masculinas, las femeninas, o cuando bailaban juntas. Y siempre se utilizan muchas herramientas, con palos, con espadas, con otro tipo de arcos, y tiene como de base también, sobre todo en la zona, en la región que yo habito, que es más, la más cercana a Francia, de base está conectado, yo creo, que a la danza clásica también, a la técnica de la danza clásica.
Alors, en résumé, effectivement, bah, c'est des danses qui représentent le quotidien, donc les actions du quotidien, le fait d'aller pêcher, d'aller vendre le poisson au marché, etc. Là-bas, c'était plutôt des danses qui étaient non mixtes, enfin, à savoir que bah, y avait les femmes qui dansaient d'un côté, les hommes de l'autre.
Et pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Porque bailaban así de manera.
Bueno, me imagino que en la época ya cuando se empezó a bailar o la que nos ha llegado a nosotros ya es una parte cuando ya en la cultura vasca no pagana, es decir, que ya había entrado la religión fuertemente, porque en el País Vasco la religión entró de una forma muy fuerte, con muchas muertes como conocemos, sobre todo en la parte femenina, por ser exactamente porque idolatraban a dioses falsos, ¿no? Que eran dioses paganos, era una cultura pagana, digamos.
Ça s'est développé enfin avec l'arrivée de la religion particulièrement qui du coup
qui a cadenassé les choses quoi pour faire simple.
Parce que du coup ces danses elles étaient vraiment ancrées dans des croyances païennes et puis tout d'un coup l'arrivée de la religion ça a mis les choses
a voulu nettoyer entre guillemets.
Exactement.
Polisser pour
Sí, yo pienso que en una raíz parte de eso, pero después hay algunas danzas que las bailaban los hombres, que tienen igual son más conectadas con la guerra porque ellos iban a la guerra. Las danzas de las mujeres son pues de temáticas que iban conectadas con sus profesiones o sus, y las danzas juntas pues son de alguna forma danzas de no sé de conexión entre género, ¿no?
Donc effectivement les danses des hommes c'était plutôt des danses guerrières, c'était plutôt les hommes qui partaient au combat. Et puis les danses des femmes c'était plutôt des activités du quotidien la vente etc. Et puis maintenant les danses mixtes ce serait effectivement plus des danses de connexion de séduction ou je ne sais
oui,
pas
oui, c'est ça.
D'accord. Et y a-t-il des costumes particuliers? J'imagine que oui pour ces danses.
Oui et además hay como por regiones. Ya se cambia. No es lo mismo la part français que c'est différent. La part de Bilbao, ¿no? O la part plus loin de la part français. Pues son trajes muy regionales, muy tradicionales, cada uno de sus colores.
Por ejemplo.
Bueno, en Guipúzcoa es mi región, entonces hay como un traje que se llama guipuzcoano, que es de la región, y normalmente es blanco todo y después tiene rojo. La boina vasca, pero roja, las alpargatas rojas y el cinturón rojo. En Vizcaya lo mismo con el negro, en Navarra. Y después siempre hay aditivos para cada danza, pues en algunos tienes como herramientas que tienen diferentes colores, o gorros con flores, o cascabeles en la pierna. Y eso, bueno, es que es difícil dar ejemplos porque hay cientos de bailes y después, hoy en día, pues en todo el País Vasco, como se conocen, ya no son tan regionales, sino que ya es algo más, está extendido, ¿no?
Alors oui, chaque région a ses spécificités.
Il y a beaucoup d'hispanophones à Toulouse, on peut aussi...
Je sais pas.
Faire confiance à la communauté.
Oui, mais pour ceux qui... Non, allez-y, traduisent pour eux.
Globalement, oui, chaque région, par exemple dans sa région qui s'appelle Guipuscoa...
Parce qu'il y a cinq provinces, c'est ça.
Il y a cinq provinces.
Quoi?
Cinq provinces.
C'est
plus compliqué.
Pour les Basques, c'est compliqué.
Oui.
Parce que officiellement, maintenant, Pays Basque autonomique,
oui.
Pour l'Espagne, c'est trois provinces.
Oui, trois provinces, d'accord. Oui.
C'est Biscaya, capitale Bilbao, San Sebastián, Guipúzcoa, et Araba, Vitoria, non? Et après, c'est le Reino, le Reino, comment ça s'appelle? Le
Royaume.
Le
Royaume. Reino.
Le Reino.
Le Royaume.
Le Royaume de Navarra, non?
Oui.
Qui c'est à part. Mais pour les Basques, normalement, ils sont Navarra plus les trois, des Pays Basques français aussi.
D'accord.
Donc, ce sont sept provinces.
Ok. D'accord.
Voilà.
Oui, parce que la différence entre l'Espagne et la France, c'est que les régions en Espagne sont plus autonomes qu'en France.
Sont, excuse-moi.
Plus autonomes.
Elles sont más autónomas, las regiones en España.
Qu'en France. Elles ont plus de pouvoir de... Enfin, moi, ce que j'en sais de...
Tienen más poder.
De l'Espagne.
Tienen algunos derechos que son los fueros, que creo que no existen...
C'est beaucoup plus centralisé en France. Mm-hmm. Il n'y a pas de souci. Hein,
c'est plus fort. Et plutôt en Guipúzcoa.
Oui.
Et oui. La raison, c'est simple, que c'est au centre des Pays Basques.
Oui,
donc
d'accord.
La oui. Comment ça dit la o sea, está cubierta por todo provincias
del país. L'environnement, enfin oui, oui c'est entouré en fait d'autres oui. D'autres provinces basques.
Donc c'est là que nous parlons plus basque aussi. Que nous...
Que vous revendiquez la culture basque.
Oui. C'est plus fort, là.
Ok. Oui. Plus intense, d'accord.
Mm-hmm.
Ok. donc, après, j'ai, tout à l'heure, puisque nous étions vus un peu tout à l'heure hors micro, vous êtes rentré d'Argentine en 2018, c'est ça?
Oui.
Et après, vous avez encore continué à faire des formations, si je vous ai bien suivi.
Oui, tout à fait, enfin... C'était pas forcément le but en 2018 de continuer à faire des formations, mais parce que notre but c'était surtout de créer en fait.
Oui, de faire, oui.
Ça c'était vraiment notre première intention en rentrant d'Argentine. Donc on a commencé à créer en 2018. Moi j'habite à Berlin à ce moment-là. Quand je suis revenu d'Argentine, j'étais vivre à Berlin.
Ok, une question, vous parlez allemand aussi? Parce que bon, je sais que Berlin est. Comment dire
Très cosmopolite.
Oui, voilà.
J'arrive à me débrouiller parce qu'étant suisse, on a de l'allemand.
Oui, vous avez aussi la partie allemande, oui.
On a de l'allemand à l'école, mais oui. Y a toujours un peu une forme de compétition entre la partie allemande et la partie francophone.
D'accord.
Et puis ça.
Il y a la partie italienne aussi.
Il y a aussi une partie italienne.
Et l'autre partie plus spécifique,
Compétition.
Non, peut-être que la partie italienne est hors compétition.
Effectivement, alors la partie italienne, elle est très marginalisée en Suisse.
Ah oui.
Et disons que, aussi par le fait qu'il n'y a pas forcément de grandes écoles là-bas. Donc, ouais. Beaucoup
d'étudiants... Il y a peut-être aussi des raisons historiques, non? Non,
Oui, mais j'aurais envie de dire surtout très linguistique, en fait, parce
D'accord.
que. Et géographique, parce que, en fait, le canton du Tessin en Suisse est situé au sud des Alpes. C'est le seul canton suisse qui se situe au sud des Alpes. Mmh. Donc culturellement beaucoup plus rattaché à la culture italienne en fait.
D'accord.
Puis à Milan qui se trouve oui. À une heure.
Ouais, en quelques encablures.
Exactement. Donc il y a beaucoup de personnes qui soit vont vivre dans les grandes villes du nord d'Italie
okay.
ou qui finalement vont s'établir dans les villes suisses du nord des Alpes.
D'accord.
Mais
oui, donc à Berlin, vous parliez quoi?
Voilà.
Vous parliez anglais, français.
Alors nous, on se débrouillait en anglais. J'ai essayé de baragouiner en allemand, les quelques mots que j'arrive à dire. Mais concrètement, c'est très facile de s'en sortir aussi sans l'allemand à Berlin. Enfin, c'est,
oui,
c'est pas forcément.
C'est, oui. Multilingue, enfin.
Oui. Donc c'est là-bas qu'on a commencé à créer.
D'accord.
Et
parce que Berlin, justement, il y a eu toute cette effervescence artistique, tant au point de vue des arts plastiques que du théâtre, que il y avait des lieux comme ça où il était possible pour de jeunes créateurs de s'installer.
Oui.
C'est pour ça que vous avez commencé à Berlin à créer.
En fait, moi, j'y suis surtout allé parce que j'ai des très bons amis qui vivent là-bas, allemands, qui me permettaient aussi de vivre avec eux dans des collectifs,
oui.
dans des à Berlin-Est, en fait.
Mmh. Oui.
Et puis, aussi, bah, effectivement, parce qu'il y a cette effervescence, et ce foisonnement de...
Ça bougeait, c'était...
Ça bougeait dans tous les sens. Il y a vraiment des espaces. Enfin, nous, on a surtout créé dans un espace qui s'appelle Theater House, la maison du théâtre, littéralement, où, en fait, c'était un ancien collège, je ne sais pas à quelle époque, mais dans tous les cas, il y a énormément d'espaces dans lesquels on peut louer à la journée pour un prix assez modique. Oui. Qui permet vraiment bah, aussi de rencontrer d'autres compagnies, d'autres personnes qui sont dans le milieu peut-être amateur ou bien qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens.
D'échanger. De...
Complètement. Ouais. Mm-hmm. Et donc c'est vraiment là-bas qu'on a créé en gros deux fois quatre semaines.
Et qu'avez-vous créé la première fois alors à Berlin ?
On a créé une pièce qui s'appelle Depolvoreres, dont on va dire la source, on va dire que les débuts ont commencé en fait à
Donc
Buenos Aires.
C'est une pièce sans mots, c'est ça?
C'est une pièce gestuelle, oui.
Voilà, c'est du théâtre uniquement gestuel.
Oui, tout à fait. Pas de parole. Et donc, en fait, on évoque les situations qu'il se passe sur le plateau avec nos corps et puis en faisant comprendre au public
ce que vous voulez dire.
Exactement.
Donc, tu as dit que ça, vous évoquiez la solitude, mais aussi la transmission, l'amitié et puis aussi le sens de la distance, quoi que ben, nous vivons et puis nous mourons. Il y a de ça, hein, j'ai bien suivi.
Oui. C'est très beckettien en fait. Donc on est pas mal aussi inspiré par l'univers de
Beckett. Comment l'avez-vous c'est dans au cours de vos études que vous avez eu connaissance avec cet auteur irlandais qui après a vécu en France et qui après créé en français à partir du moment où il a vécu en France, mais qui avait comme ça un univers très particulier, où il faut décoder, enfin il faut chercher, il faut bien suivre pour parce que rien n'est donné chez Beckett, enfin c'est
oui.
Il faut creuser un petit peu pour
Je sais pas comment Chavi l'a découvert, moi non plus d'ailleurs, mais en tout cas c'était pas durant nos études. C'est clair que la pédagogie Lecoq elle se base pas forcément sur un répertoire classique, mais je pense en tout cas que Beckett, ben, quel que soit le lieu dans lequel on l'a découvert, répond...
Parce que vous aviez fait du théâtre aussi avant d'aller en Argentine, donc peut-être Beckett, c'est peut-être...
Alors peut-être bien, oui. Effectivement, ben, moi je viens plutôt du Tête de l'Opprimé à la base.
Ouais.
Et...
Qui a été créé aussi en Amérique du Sud.
Oui, oui. Alors très lié en fait à l'éducation populaire et puis...
Augusto Ball.
Effectivement. Mais enfin, je dirais que Beckett... correspond vraiment un peu peut-être à notre lecture du monde, pour le dire assez amplement.
C'est peut-être avec un minimum d'effets de donner le maximum de choses à entendre, enfin, il me semble.
Il y a ça, mais j'ai
pas
vraiment...
Pas que, bien sûr, mais...
J'ai vraiment l'impression aussi qu'il s'insère dans une période historique, à savoir à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire après ça, en fait?
Oui.
Et puis finalement, il y a un peu cette idée que... Les mots ne sont pas assez puissants, des fois, pour décrire
pour
certaines situations.
Choses,
Nous, dans notre... Finalement, on arrive à du théâtre physique, gestuel, sans mots. Je ne dirais pas que c'est un hasard, mais c'est dans tous les cas, c'est la forme dans laquelle on se sent le mieux. Et puis, qui nous permet, en fait, d'exprimer des choses sans forcément rentrer dans une quelconque forme de psychologie ou d'intellectualisme, en fait. Je crois que ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est tombé là-dessus.
Oui, donc c'est plus quelque chose du ressenti, du viscéral, du brut de certaines manières, et donc que vous donnez par le jeu de votre corps à voir.
Oui, tout à fait.
Il a créé aussi non, comme le symbole del personnage, del clown, mais le clown poétique.
Oui.
C'est ça qui vous c'est très végétien que nous avons
développé.
Utilisé. Oui, développé, oui.
D'accord. Okay. Mais et vous, Beckett, comment avez-vous eu connaissance du théâtre de Beckett, de Samuel Beckett?
Ce Beckett, c'est... premio de... Comment se dit ça? No me sale ahora, como es el previo. O sea, es un tipo muy conocido que ha tenido el premio...
Ah, prix Nobel, tu dis.
Eso.
De
la...
Ah, oui, de oui,
le prix. Ah. Mm-hmm. Le prix Nobel de, oui. De littérature, de théâtre, non? Pour avoir développé ça exactement, non? Une manière de faire un genre nouveau de théâtre.
Oui.
Et... Donc,
oui, d'ailleurs, il faisait partie, à l'époque, quand il a été en France, d'un courant littéraire nouveau aussi, dans la façon de décrire.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et pour moi, c'était un personnage très famoso, non? Comment ça a été famoso?
Connu.
Connu, mm-hmm. Non? Et aussi, quand j'étudiais à lycée, à l'université, comment c'est, université de art dramatique. Mm-hmm.
C'était un auteur.
C'est quelque chose qui toujours
revenait.
C'est là, non? Mm-hmm. Comment? C'est un nom important.
Important, oui, dans le monde du théâtre, oui. D'accord.
C'est pour moi le très intéressant d'Évêque, c'est aussi que la utilisation du subtexte, comment c'est ça ?
L'utilisation du sous-texte, des didascalies.
Oui, oui. Oui, parce que tous les metteurs en scène en général qui travaillent sur Beckett, quand c'est avec un texte, disent qu'il faut qu'ils suivent à la lettre les didascalies, qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire selon leur fantaisie. Il faut suivre.
Tout à fait.
Oui. J'ai alors des personnages. Il parle, mais il dit pas. Il dit pas.
Oui, c'est très.
Il dit pas ça.
Oui.
C'est
caché.
C'est caché. C'est ça. Pour moi, l'importance de Beckett aussi.
Et puis c'est vrai qu'il y a un côté aussi un peu intemporel peut-être d'une certaine manière. Même au niveau des lieux, c'est jamais bien. Même je parle du théâtre parlé de Beckett. Mmh, enfin oui, des pièces parce qu'il écrivait des. On ne sait pas vraiment exactement où ça se trouve, ni quel moment, ni quel âge ont les gens, ni quelle origine, enfin quelle appartenance socio-culturelle. Enfin.
Tout à fait. Ouais. Oui, oui, y a, le temps n'a pas beaucoup d'importance.
Oui, oui. C'est comme ça des personnages qui se retrouvent face à face et qui expriment des conditions, oui, sur leur existence, on peut dire ça comme ça.
Oui.
Et je vous souhaite, parce qu'il y a à Toulouse, il y a un petit théâtre qui s'appelle la CAF Poésie et qui avait été créé par René Gouzène, qui maintenant, bon, est décédé depuis quelques années et qui adorait Beckett et qui avait souvent mis en scène des pièces de Beckett et qui un jour, parce qu'il était venu très souvent ici, m'avait dit qu'en fait, que les gens qui connaissaient vraiment les spécialistes Beckett, entre guillemets, disaient que tout ce qui était dans ces pièces, c'était des choses qu'il avait, comment dirais-je, plus ou moins vécues, mais après, ça avait été retransformé et donc, il fallait vraiment être... comment dire, très familier de Beckett pour savoir que c'était relié à certaines étapes de sa vie, notamment puisqu'il a été dans la résistance, enfin, et René Gouzène m'avait expliqué ça, et que c'était pour ça qu'après ça donnait quelque chose d'aussi, comment dire, pas d'accessible tout de suite, enfin, il faut se laisser porter, il faut entrer à Beckett, parce qu'il y a des personnes qui vraiment ne le supportent pas, quoi.
Tout à fait, oui. Ça peut être assez indigeste, effectivement.
Il faut se laisser porter et se laisser... voyager et comment dirais-je et se laisser emporter par la curiosité mais aussi être dépaysé d'une certaine manière.
Mm-hmm. Alors je dirais pas que nous sommes des experts de Beckett donc on s'est en tout cas pas plongé dans
oui mais
manière.
Vous avez il y a des choses qui en lui vous ont parlé pour que vous ayez envie de l'utiliser et notamment au niveau du travail du corps puisque c'est un spectacle sans mots.
Tout à fait. Alors,
ça suppose beaucoup de précision aussi.
Oui, tout à fait.
De rigueur, si je puis dire.
En fait, c'est aussi un peu des legs de la pédagogie dans laquelle on a étudié.
Dans laquelle vous avez baigné, oui.
C'est vraiment cette écriture du plateau.
Oui.
Donc, on n'a pas écrit de pièce au préalable. C'est vraiment à travers le travail en laboratoire, en gros, comme on dit, à travers le corps, à travers nos différentes improvisations, que certaines situations sont sorties. Puis, de manière... Inconsciente ou non, la pièce a commencé à se former, quoi, comme on dit souvent, finalement, c'est en sculptant que la forme est arrivée petit à petit, quoi. Donc on n'est vraiment pas du tout dans une écriture d'auteur.
J'ai bien compris.
Et voilà. Mais c'est clair que ça fait partie de nos inspirations de base, le Beckett.
D'accord. Et vous l'avez joué en Allemagne, cette première création?
Oui et non.
C'est-à-dire c'est compliqué, ça.
On a fait oui. C'est-à-dire qu'on a aussi une histoire assez sinueuse, hein. Notre compagnie elle est pas vieille, ça fait depuis 4 ans et demi maintenant qu'on a commencé à travailler ensemble, et entre-temps il y a eu le Covid.
Oui.
Donc on a clairement pas beaucoup joué.
Et oui.
Mais oui, cette pièce on l'a jouée en fin de résidence, en fait, à Berlin. On avait, disons, la moitié de notre pièce qui était faite.
D'accord.
Donc ça, on l'a présenté face à un petit public là-bas. Et puis, on a terminé de créer cette pièce à Hendaye, donc en France, en début 2020, où là aussi, là, on était effectivement en théâtre.
Dans un vrai théâtre?
Oui.
Okay, d'accord.
Avec toute l'équipe technique derrière. Ouais. Et puis, cette pièce, elle a été présentée en janvier 2020. Puis on avait l'objectif de tourner en Amérique latine, parce que c'est aussi là-bas qu'on s'est formé,
oui.
Et puis qu'on a des contacts. On était booké dans un festival au Chili, puis en Argentine également. Et avec cette idée aussi qu'on allait pouvoir peut-être roder la pièce dans une petite salle pendant quelques semaines.
Et comme il n'y a pas de mots, donc vous pouvez jouer dans n'importe
Exactement.
Quel pays. Il n'y a pas la compréhension de la langue
Exactement.
Là-bas.
C'était ça notre calcul.
Oui.
Hein. Mais évidemment, le Covid est passé.
Les événements, des fois, font que...
C'est ça. Donc, cette pièce, elle a été mise en sourdine pendant 2 ans, à peu près. Et puis, on l'a reprise l'année passée, donc en septembre et octobre 2022.
Où ça ?
À Donosti, à Errenteria, donc au Pays Basque,
ouais.
Espagnol. Et puis, on l'a joué à Valladolid, à Errenteria, et puis à Estella, en Navarre.
D'accord.
C'est un gros pari, hein. Enfin, depuis le début, en fait, tout a été autoproduit. En fait, on s'est toujours autoproduit depuis le début. On n'est pas très reconnu, à vrai dire. Donc, c'est une expérience très très vivante et qui nous prend au trip, parce que finalement, si on n'était pas passionné, on le ferait pas.
Oui, j'imagine.
Un suicide économique.
Oui.
Mais dans tous les cas, c'est ça aussi qui nous pousse. Enfin, c'est déjà une histoire d'amitié à la base. Une passion commune, et puis ensuite...
Une rencontre humaine et artistique.
Exactement. Et puis, on ne serait pas là, en fait, si on avait envie de... Si on pensait en termes de rentabilité...
Oui, de gagner beaucoup de sous, vous feriez autre chose.
Vous ne seriez pas à Canal Sud, non?
On ne serait pas à Canal Sud.
D'accord.
On serait peut-être sur France Culture, je ne sais pas. Hein.
D'accord. Et en Suisse, vous ne l'avez jamais... Parce que vous résidez en Suisse, j'ai bien suivi.
Moi, je réside en Suisse.
Oui.
Alors, on l'a pour l'instant jamais joué en Suisse. C'est pas faute d'avoir essayé de la diffuser, hein. Mais de nouveau, c'est un calendrier qui est différent. La manière de programmer, comme dans beaucoup d'autres endroits, hein, mais c'est quand même une année et demie avant la saison culturelle.
Oui.
Il y a eu le Covid, donc il y a aussi pas mal de contrats qui ont été
retardés, des choses qui ont été annulées. Oui.
Et puis comme on est personne, les gens ne vont pas forcément venir nous chercher, en tout cas pas. Et puis pour se faire une place, c'est appeler. Puis même en faisant ça, c'est difficile. Donc cette pièce, elle a jamais été jouée en Suisse. Par contre, on va la jouer au Pays Basque en avril et en mai 2024.
Dans un théâtre ou
Mais à Léon aussi.
Et à Léon. Oui, dans des théâtres, oui.
D'accord. Des théâtres, comment dire, scène nationale ou pas? Ou petits théâtres, vous savez pas?
C'est des gros théâtres, au niveau infrastructurel, parce que... Alors, de nouveau, on y va avec la passion, et donc on n'a pas été très stratégique, de nouveau, parce que si on voulait être stratégique, on ferait quelque chose pour une petite scène, etc.
Oui, puisque vous êtes deux,
Mais, du coup, on a besoin d'une grosse ouverture de plateau.
Parce que vous avez un grand plateau, c'est ça?
Oui.
D'accord.
On a besoin de, disons, en tout cas 7 mètres d'ouverture.
Ah oui, effectivement. Ouais.
Parce que, en fait...
C'est parce que vous occupez tout l'espace.
On occupe tout l'espace,
pour justement mieux exprimer ce que vous voulez dire.
Oui. Parce qu'on a beaucoup, en fait, pas de chorégraphie, mais de...
Donc, si on peut peut-être parler de chorégraphie.
Un peu, oui, mais... J'ai envie de dire, par exemple, on a des scènes où on se bagarre, on doit se monter dessus, c'est très physique, le coup. Mon personnage, il fait beaucoup de roulades, réintégrer par l'espace. Mon personnage essaye de sortir de l'espace. Tous les coups, l'espace le rejette sur scène. Donc, c'est des situations où, en fait, on a besoin de pas mal d'amplitude. Et en plus, on a une technicienne plateau qui travaille et qui nous envoie des objets derrière les pendrillons.
Ah oui.
Ce qui signifie que ça fait à peu près 2 mètres, un mètre de chaque côté qui sont grignotés sur le plateau. Quoi.
Parce que sinon, c'est un plateau quasiment nu, vous m'avez dit.
C'est un plateau quasiment nu, en tout cas pour cette première pièce qui s'appelle Des Polvoeres.
Il y a une malle suspendue.
Il y a une malle qui est suspendue en fond de scène. On a un miroir. En fond de scène également.
Qui a une importance, le miroir en question ?
Oui. À savoir que cette pièce, c'est un huis clos. C'est un personnage qui est enfermé dans un espace. Et une de nos premières images, ou nos premières inspirations, c'était on a entendu dire que les perruches dans les cages,
oui.
Si elles n'ont pas d'alter ego,
ah oui,
elle meurt.
D'accord. Ouais.
Et donc, ce miroir vient exprimer en fait cette idée que ce personnage-là a besoin de pouvoir voir son reflet pour finalement continuer à survivre.
À exister.
En fait.
Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Mais alors, attendez, parce que vous dites, mais vous êtes, il y a deux personnages quand même sur scène.
Il y a deux personnages, oui.
D'accord. Ok.
Donc il y a le personnage A qui.
Ça aussi, c'est très beckettien de ne pas donner un prénom.
Oui, oui.
A et B, c'est ça ? Ou non, c'est autre chose ? Oui, d'accord.
Le deuxième, le second est B. Donc le premier, le public comprend assez rapidement que ce personnage est enfermé dans cet espace depuis...
On ne sait pas.
On ne sait pas quand.
Ni pourquoi, ni... Il est enfermé.
Il est enfermé. Et il a dû se créer un quotidien avec quelques routines. Évidemment, son comportement peut paraître étrange pour une personne qui provient de notre monde. Et au bout d'un certain temps, quand l'espace est installé, le personnage B fait irruption sur le plateau.
D'accord.
Et là, on imagine, dans notre conception de la pièce, que ce personnage B est dans son bain avant... comme n'importe qui, ou sous la douche, n'importe quoi. Et tout d'un coup, il se fait propulser dans une sorte de vortex et débarque sur le plateau. Et donc, mon personnage, le personnage B, essaye par tous les moyens de s'échapper, de sortir, jusqu'à se rendre compte qu'il n'y aura pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'issue.
Donc, il faut que les deux composent.
C'est ça.
Si je suis bien.
Mais pour le personnage A, en fait, ça signifie sa libération progressive, parce que on peut imaginer que ce personnage A a vécu la même situation il y a des siècles.
D'accord.
Est aussi venu remplacer un personnage A prime et qu'il aura dû passer par cette période de résignation, d'acceptation et peu à peu en fait de détachement d'un alter ego qui l'aura accompagné pendant quelques temps et qui l'aura laissé vivre sa solitude et son propre parcours, en fait.
D'accord. Et est-ce que vous diriez, comme Coltès, que de toute façon, nous étions toujours seuls ?
J'ai pas compris la question.
Est-ce que vous diriez, puisque vous parlez de l'histoire de solitude comme Bernard-Marie Coltès, que l'être humain est toujours seul à sa naissance, à sa vie, à sa mort, enfin qu'il est seul ?
Je crois qu'on se... On se définit passablement là-dedans, en fait. Ou peut-être que... Et ça, c'est dans un stage de danse Buteau que j'avais entendu la formatrice. Finalement, peut-être qu'on fait toujours que des tentatives de rencontres.
Ah oui, d'accord. Oui.
Et qui sont furtives à l'échelle de l'histoire de la Terre, mais qui peuvent... être des instants immortels,
précieux.
J'ai envie de dire, c'est un petit peu ce qu'on vit avec Xavi. Là, ça fait une année qu'on s'est pas revus.
Vous étiez chacun
dans nos projets ou dans nos
occupations de vie.
Et puis c'est toujours un plaisir, puis évidemment on a cette compagnie, mais c'est clair que c'est pas une compagnie qu'on mène au quotidien. On a des projets, on essaie de faire avancer la barque, et puis c'est clair que c'est pas facile dans ce milieu théâtral. Mais clairement, on vit cette rencontre. Puis, alors là, on n'est pas seul pour le coup. Mm-hmm. Mais c'est avant tout
oui,
des aventures.
Oui, ce sont des moments mm-hmm. volés d'une certaine manière. On peut dire ça comme ça, peut-être.
Oui, c'est une bonne manière
à
de
la
dire.
Roue du temps. Enfin...
Tout à fait, mm-hmm. tout à fait. Des moments qui nous permettent finalement de nous sentir vivants. C'est, j'ai
oui,
l'impression
oui.
que c'est dans le
théâtre,
dans la
rencontre. Bah oui, sur un, oui, théâtre, les gens sont vivants.
Dans le théâtre, mais c'est, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup rapprochés depuis le début de nos rencontres, puis le début de notre création. Quand on était à Berlin, c'était aussi une époque dorée. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu notre lune de miel, où on est, je sais pas, on crée, on est dans une ville foisonnante, du coup, on rencontre beaucoup de gens, puis il y a.
Il y a tout un potentiel comme ça, oui, artistique.
Et puis il y a ces rencontres, en fait, qui se font. Oui. Puis il y a cette solitude, on n'est pas seul, évidemment.
Oui, oui.
Mais une fois que ça se termine, on doit bien continuer à...
Et oui, chacun reprend sa route, mm-hmm. entre guillemets.
Exactement.
D'accord. Puisque vous parliez de la danse buto, pourquoi avez-vous éprouvé le besoin d'apprendre la danse buto? Parce que c'est particulier aussi, c'est lié à un moment de l'histoire, enfin...
Mm-hmm.
Comment ça, c'est lié à... Moi, je ne connais pas trop la danse buto. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots pour présenter?
Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette danse ni de son histoire. Simplement, alors, comme
c'est
beaucoup
lié
de choses...
à Hiroshima, à l'époque de la bombe atomique.
Quoi. Oui, tout à fait.
C'est né au Japon et
au-delà de ça, j'aurais du mal à vous exprimer.
Mais vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette danse?
C'est
dans cette approche.
La physicalité.
Ouais,
parce que de nouveau,
toujours.
C'était vraiment une recherche
d'un contact,
un travail technique en fait sur le corps. Et puis comment exprimer finalement, je crois que ça c'est assez patent dans la danse buto, mm-hmm. La souffrance en fait, mm-hmm. la souffrance du corps, la souffrance mm-hmm. des corps, la souffrance qui intervient pas parce que, enfin c'est pas un hasard, c'est vraiment une décision d'humain mm-hmm. qui décide de détruire en fait.
Ben oui, de détruire d'autres humains.
Et qu'est-ce qui sort en fait enfin quel corps on peut, enfin quel corps exprimant.
Comment survivre après.
C'est ça. Donc je pense qu'il y a cette recherche là qui m'intéresse toujours. Mais au-delà de ça, après c'est comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est des hasards, de rencontres et puis une personne qui me dit il y a ce stage.
Des coups de cœur d'une certaine manière.
Des coups de cœur, oui. Mmh. 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 Oui, beaucoup de choses que je fais, enfin je dirais de manière relativement intuitive, mais aussi avec la certitude en fait que ça va m'amener à une autre étape sans savoir vraiment quel est l'objectif.
Oui, que ça va vous aider dans votre démarche sans savoir vraiment comment, mais ça sera un plus.
Bien sûr.
Ok, d'accord. Vous aussi, vous avez fait du buto?
Oui, j'ai fait ça un enseignement de entrenamiento, entraînement, comment ça s'appelle? Mais oui, je ne sais pas beaucoup plus que ça.
D'accord.
Ouais.
Ok. Et est-ce que la pratique du buto, vous l'avez fait avant cette création ou pas?
Oui. Alors.
Et est-ce que ça justement apportait des choses dans la création? Et vous, la danse, puisque vous êtes danseur aussi, vous avez depuis tout petit, est-ce que justement, ça vous, dans ce jeu que vous avez très physique, dans ce théâtre que vous voulez, que vous défendez, qui est un théâtre uniquement gestuel, est-ce que le fait d'avoir pratiqué longtemps de la danse, ça vous aide?
Oui.
Genre au niveau de la souplesse, mais pas que, comme, j'imagine, de la force.
Comme on a dit Paco avant... Et aussi c'est pour tout entraînement, non?
Entraînement.
Tout entraînement, et c'est pour la mémoire,
mémoire
du corps.
Du corps, oui.
Qu'il apprend comme ça, et tout c'est comme en technique.
Oui, ok.
Donc je pense que... La danse, quelques entraînements que tu fais, si tu le fais plus préparé et le corps, c'est comme ça. Et c'est quelque chose que c'est pas très très intellectuel.
Oui.
Parce que,
c'est plus viscéral.
Ouais, c'est quelque chose que comme que se queda, non?
Oui,
et ça va accumulando.
À l'intérieur, ouais.
Confiance confieso no en eso, es como una memoria que se va quedando, y pues, el cuerpo de verdad funciona de una forma muy, muy precisa.
C'est la mémoire corporelle.
Oui, 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 je comprends. Oui. Oui, ce qui est écrit dans les cellules,
tout à fait. Cérébral. De mon côté, enfin, c'est un grand mot de dire que j'ai pratiqué la danse buto, parce que c'est vraiment des stages qui durent 2-3 semaines. Donc oui, oui. Voilà, ça fait partie, disons, évidemment, d'une formation.
Mais... De petits plus que vous avez dans votre parcours artistique.
Donc je ne prétendrai jamais que j'ai fait de la danse buto.
D'accord. Enfin, okay. Voilà. Et vous continuez à en faire ou pas?
Non. Du tout. Mais par contre, des stages d'auto-formation, etc. Oui, ça nous arrive d'en faire. La semaine passée, j'étais faire un stage de bouffon à Bagnolet, dans la région parisienne. Et voilà, ça fait du bien de revenir dans le bain, puis de toujours rencontrer de nouvelles personnes,
d'apprendre
autre chose, et puis de finalement de continuer à s'entraîner, en fait, oui.
Ah oui. Ok. Donc, puisque vous avez un plateau pratiquement nu, il n'y a pas de mots. J'imagine qu'il y a un travail lumière quand même. Un travail, une création en lumière.
Oui.
Et est-ce que vous pouvez en parler? Et est-ce qu'aussi, musicalement, vous êtes accompagné?
Alors, le travail lumière, c'est un travail assez précis. Parce que.
Justement, pour mettre en valeur ce que vous voulez dire.
Oui. Alors, concrètement, on essaie de développer une esthétique plutôt onirique, dans laquelle on puisse isoler en fait le public et qu'on ne voie pas forcément en fait le théâtre en soi, même si concrètement, nous on utilise beaucoup les travées, enfin comme je vous disais, les pendrillons, mon personnage.
Ce qui est possible sur un plateau.
Exactement.
L'utiliser.
Mais enfin, il y a vraiment des moments dans la pièce qui sont vraiment poétiques et qui essaient de faire voyager. C'est dans un.
C'est un ailleurs.
Exactement.
Improbable. Il n'y a pas de d'époque, pas de doré. Enfin, c'est.
Exactement.
Ça rejoint. Puis vous parlez de. Comment dire. Une approche onirique. Ça rejoint aussi un peu le rêve, puisque souvent dans les rêves que nous faisons la nuit, il y a des choses comme ça. Qui s'enchaînent et qui n'ont pas forcément de...
Oui.
Comment dirais-je j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, qui ne sont pas forcément très réalistes, quoi. Enfin, oui. C'est comme ça, des fondus de...
Exactement. Je crois que c'est aussi ça. Enfin, c'est une des volontés, en fait, de pouvoir évoluer dans une forme de flou, en fait. Est-ce que ces personnages rêvent? Est-ce qu'on est dans le... Enfin,
dans le vrai, le flou.
Exactement.
Donc, dans l'imaginaire, dans le... Oui, d'accord. Mm-hmm. C'est un voyage, dans tous les sens du terme.
On peut dire ça comme ça. Après, j'imagine que n'importe quelle pièce de théâtre...
Oui, mais il y a plus ou moins, quoi, je veux dire.
Oui, oui. Non, c'est clair que... vraiment, l'idée, c'est de pouvoir créer une atmosphère qui soit extra-quotidienne. Et non réaliste, clairement.
Dans la lumière, pour en revenir au travail de lumière, c'est pour ça que vous avez besoin de quelque chose, d'une création lumière importante.
Oui. Effectivement, de nouveau, on n'a pas été stratégique par rapport à ça, mais c'est et puis on le revendique et c'est très bien parce que du coup ça crée un petit peu notre style.
Oui, enfin, oui, votre marque de fabrique. Transiger.
Mais clairement, c'est une pièce qu'on peut pas jouer en extérieur.
Oui.
Ça n'aurait aucun sens.
Bien sûr. Oui, vous avez besoin au contraire d'un endroit bien.
Une boîte noire.
Voilà, déterminé.
Oui.
Parce que on peut aussi voir un espace onirique, mais on peut voir aussi un théâtre.
Oui.
Parce que ça, c'est qui... bon, sa pièce, c'est aussi métathéâtral, non? Métathéâtral. On peut voir des personnages qui essayent de se cacher.
De s'échapper.
S'échapper. De ça espace qui c'est en théâtre.
Oui, oui.
Comme ça. Donc, oui. C'est important, je pense.
D'accord. Et la musique, donc? Y a-t-il de la musique qui vous accompagne?
Dans cette pièce d'Épaule Volées, oui. Notre musique de base, parce qu'effectivement, dans notre processus de création, comme dans la pédagogie de Coq, une grande partie de la formation se base sur l'observation des éléments et puis comment est-ce qu'on peut le transposer physiquement. Donc il y a l'étude des couleurs, il y a l'étude des éléments, il y a l'étude des matériaux, des matières, etc., etc. Et puis après, on travaille beaucoup avec la musique également. Quelle est la dynamique de telle ou telle musique? Donc au début du processus de création, on se questionne évidemment sur quoi on part, quelle esthétique on a envie d'aller, qu'est-ce qui nous fait bouger. Et puis, par exemple, pour la première scène, ce serait quoi la musicalité de cette première scène? Donc, par exemple, pour demain, on s'apporte 5 chansons qui évoqueraient éventuellement ça. Et puis, la seule musique de cette pièce qui est le fil rouge, en fait, de cette pièce, c'est une chanson de Vivaldi, Sovente il sole, que nous déformons aussi à un certain moment de la pièce quand le personnage A sifflote. Donc ça vient toujours accompagner en fait la pièce de près ou de loin, soit parce que c'est dans l'introduction, donc c'est la musique originale.
Et pourquoi Vivaldi? C'est quelque chose qui vous a paru comme ça adéquat? Est-ce que vous parlez les deux, vous parlez italien?
On se débrouille.
Vous le comprenez?
On le comprend, puis on arrive à s'exprimer. Mais je pense que cette musique, elle évoque des émotions qui apparaissent sur la scène.
Oui, d'accord.
Elle nous donne une couleur aussi. Mmh. On cherchait, par exemple, pour cette pièce, quelque chose de plutôt d'obscur, d'ocre, un peu de passé, poussiéreux. Donc dans quelle atmosphère visuelle on se voit? Et puis quelle serait la musique en fait de cette atmosphère? Puis c'est en fait en décantant petit à petit, en écoutant beaucoup de morceaux qu'on arrivait là-dessus.
Et vous pourriez la fredonner, la chanson de Vivaldi?
C'est long.
Elle dure 7 minutes.
Merci, c'est gentil.
Bravo.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Ça n'était pas quoi.
D'accord. Et la version sifflée, ça donne quoi?
Toujours plus, Marie-Madeleine, t'as zéro limite.
La version quoi?
Sifflée.
Sylvain.
Ah.
Thomas.
Allez-y, allez, go.
Non, tu l'as fait, je me crois.
Mais je dois pas rire.
Non.
Merci beaucoup.
On fait une petite pause musicale.
Ok, parfait. modeste pause musicale, nous allons reprendre notre conversation, puisque nos deux invités, certes, sont passionnés de théâtre, mais ils font aussi, ils ont d'autres activités aussi. Alors, par qui ? Je commence par qui ? Par vous ? Non, Chabi. Oui. Vous intervenez dans des écoles, c'est ça ?
Oui.
Au Pays Basque ?
Oui, au Pays Basque, au Navarra, plutôt. Je travaille avec une association à les écoles, non ? Dans l'école, non ?
Et avec des petits, c'est quel niveau ? Primaire,
teenagers,
adolescents.
Les adolescents, oui, d'accord.
Oui, des adolescents. Et on fait des pistes qui parlent de la violence de genre. Et on fait des petites.
C'est net.
Oui, c'est net. Et c'est un éducateur social qui conduit la session. C'est 2h30 la duration,
d'accord, la durée.
C'est ça. Et c'est très très fort normalement.
Et c'est assez inspirant des techniques du théâtre primé. Du théâtre
opprimé. Oui, oui, c'est moins ces théâtres opprimés.
Vous pouvez en dire deux mots pour les gens qui ne connaîtraient pas.
Si vous pouvez parler de.
C'est né en Amérique du Sud.
Mm-hmm. C'est. Ok. C'est comme un théâtre folle, non ?
Théâtre forum.
Nous partons avec une scénette. Et que c'est ça la proposition. Ouais. Et après, le public, ils peuvent changer, non ?
Oui, changer le cours de l'histoire, si je puis dire.
Oui.
Entre guillemets.
Pago, est-ce que tu peux aider, s'il vous plaît ?
Merci. Bah donc, en gros, dans l'idée. Il y a, comme il disait, il y a une première scène qui, là, en l'occurrence, qui vient présenter une situation de violence de genre. Mm-hmm. Qui, alors je ne sais pas dans leur cas combien dure la scénette, mais ça peut être très court, hein, peut durer 2 minutes jusqu'à toute une pièce de 30 minutes, une heure. Mais en gros, cette scénette qui est présentée à un public, là en l'occurrence à des adolescents, l'idée c'est qu'une fois qu'elle se termine, c'est de questionner le public sur ce qu'il a vu.
Et quelle réponse il pourrait y apporter
en potentiellement montant sur scène pour prendre la place d'une des protagonistes.
Ouais.
Et à savoir que c'est pas possible de prendre la place de l'oppresseuse de la scène, mais plutôt une personne qui aurait été témoin de la scénette, et donc pour essayer d'apporter en fait des formes de. Alors, à l'époque des années 70, c'était des années 70, c'était effectivement une manière de conscientiser, de politiser le public, les gens. Maintenant, ce serait de sensibiliser au fait que la personne est aussi actrice et peut intervenir à tout moment, que ce soit dans la rue, dans l'ascenseur, dans son milieu professionnel, etc. Donc, c'est un outil vraiment puissant qui permet de. En tout cas de mettre en mouvement déjà physiquement le public à travers sa participation, mais qui laisse des traces aussi après, enfin a posteriori, où finalement quand on vit une situation similaire dans notre espace privé ou public,
comment intervenir ?
Voilà, exactement.
C'est très politique en fait.
Oui, c'est un peu répéter la scène avant qu'elle arrive vraiment.
Oui. Et justement, est-ce que ça fait partie de quelque chose d'obligatoire dans l'enseignement en Navarre
Non, en Navarre, c'est pas obligatoire. C'est quelque chose que normalement, quelques écoles peuvent choisir. Mais à travers normalement des argent public.
Oui.
Mais bon, c'est l'école, c'est public.
Oui, bien sûr, oui.
Donc, peut être aussi financière de manière privée.
D'accord.
Mais normalement, c'est contraté pour l'école publique à travers de la gouvernement.
Oui, le gouvernement, oui.
Et c'est comme ça. On va un jour, mais des adolescents, ils font le travail avant.
Oui, en amont.
Théorique, oui. Et normalement aussi après de ça. Mais... Et c'est bon de voir comment des écoles qui les contratent ça.
Qui s'engagent. Comment? Les écoles qui vous engagent.
Oui. Ils répétaient après tous les années.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Donc ça a un certain succès, c'est ça?
Oui.
Ok. Et est-ce que justement, puisque ce sont des adolescents, que c'est une période particulière,
oui.
Est-ce que vous ont dit les adolescents et adolescentes, est-ce que ça leur permet justement de mieux comprendre certaines choses? Est-ce que ça leur permet d'avancer?
Oui. Eso puedes traducirme. Es fuerte ver, porque es una edad bastante particular, se hace... En la adolescencia y también en la préadolescencia, un poco antes.
C'est intéressant de voir que justement, c'est un âge où, particulier, enfin,
oui,
l'adolescence et la préadolescence.
Des questionnements, des choses.
Y también porque en el público mucha gente se... hay como roles, ¿no?, muy particulares de abusadores también, que finalmente no pueden mirar la escena más, porque muchos también traen toda esta violencia de casa, entonces hay algo que les transforma... fuertemente, o otras porque ven esa violencia entre sus padres, o
sí.
Porque la reciben, o porque ellos son los abusadores, ¿no?
Entonces, que finalement, oui, c'est très fort, parce que dans le public même, il y a évidemment des personnes qui vivent des abus ou qui en commettent, donc certains les voient au quotidien,
oui,
à travers,
oui,
leurs relations familiales,
uh-huh,
et que du coup, ça crée des effets directs, en fait.
Oui, oui.
Est visible.
Oui, ça permet de réagir, de rebondir d'une certaine manière. Okay. Et vous faites ça, vous avez recommencé là déjà cette année?
Non, je vais faire la première dans sa cours scolaire, ça y est, cours scolaire, comment est-ce?
Dans un cours du programme scolaire.
C'est... empieza ahora, justo después de verano, ¿no? 5 octobre.
D'accord.
Je commence,
okay,
avec ça.
D'accord. Et vous le faites tout au long de l'année?
Oui, ça dépend.
Ça dépend des choix des établissements.
Oui, mais normalement, on peut commencer à septembre.
Oui, ok.
De septembre à juin.
À juin, oui. Ok.
À juin,
oui. D'accord. Ok, parfait. Et la méthode là, du théâtre de l'opprimé, vous l'avez appris chez vous, au Pays Basque, ou en Argentine?
Non, ici au Pays Basque.
Au,
oui,
Pays Basque, oui. D'accord. Oui, puisque bon, ils ont, essaimé un peu partout, quoi. Enfin, à Toulouse, il y a une association qui s'appelle l'École citoyenne et qui aussi utilise le théâtre de l'opprimé, avec souvent aussi des adolescents et des adolescentes, mais pas que, pour justement aussi tenter de faire comprendre certaines choses. Alors, ça peut être lié aussi à la violence, à l'alcool, à la drogue, à la sexualité. Enfin, ils essaient comme ça de travailler aussi avec ce matériau-là.
Et il y a aussi une autre, je place l'association,
pardon,
Cap d'Agir,
oui,
qui utilise plutôt le théâtre et des petites scénettes qui font partie d'un réseau européen, je crois que c'est franco-belge, et sur des scènes de violence faites aux enfants, et voilà, Cap d'Agir.
Merci de cette précision. Donc vous, Paco, le théâtre de l'opprimé, vous l'avez appris à l'Argentine ?
Oui, alors pour ma part, oui. En fait, en gros, ça a été mes premiers pas dans le théâtre il y a maintenant un petit peu moins de 15 ans. Uh-huh. Parce que pour moi, le théâtre, ça n'a jamais été du tout une vocation. Je ne viens pas du tout d'une famille qui a baigné là-dedans. Ouais. Enfin, j'y allais jamais avec mes parents. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait, j'ai envie de dire, organiquement, mm-hmm. mon entrée progressive dans le monde du théâtre. Mais avant tout, en fait, plutôt pour une question de désillusion, en fait, un peu d'une forme de militantisme.
D'accord.
Et donc, à un certain moment, ma compagne de l'époque, elle terminait ses études en animation socioculturelle, puis ouais. elle avait des cours de théâtre, mm-hmm. et puis en l'occurrence de théâtre de l'opprimé, qui sont dispensés dans certaines écoles.
Et ça vous a parlé ?
Ça m'a parlé, et puis bah, on est parti en fait en voyage ensemble là-bas, pour des activités sociopolitiques, on va dire. Et à ce moment-là, en 2009, le groupe de... le mouvement, le MTO, Mouvement Théâtre de l'Opprimé de Jujuy, au nord de l'Argentine, était sur le point d'organiser une rencontre internationale de Théâtre de l'Opprimé. Mmh. Et on est arrivé 6 mois avant le début de cette rencontre. Puis en fait, moi ça m'a plu, puis j'avais plutôt un rôle un peu de coordination là-dedans. Mmh. Enfin, on fait un peu de tout, hein, mais... c'était totalement autogéré, donc il y a beaucoup de groupes du Brésil qui sont venus, de toute l'Argentine, d'Uruguay, du Bolivie, du Mexique. Et puis c'était une expérience fondatrice, en fait, en gros, pour moi, pour beaucoup de monde, je dirais. Et c'est à ce moment-là, vraiment, que j'ai commencé à...
Vous intéressez à la chose théâtrale.
À m'intéresser à la chose théâtrale, oui. Et puis, en parallèle, en fait, il y avait des galpons de la Tupac Katari à Jujuy. C'était des hangars récupérés, en fait, et occupés, qui dispensaient des cours, des cours d'anglais, des cours d'espagnol, des cours de n'importe quoi, en fait, de cuisine, etc., et de cirque aussi. Donc là, j'ai commencé un peu à faire de l'acrobatie, à faire un peu du jonglage.
Très complet, donc.
Oui, enfin, ça a été un peu comme ça, mon pied à l'étrier.
D'accord.
Et puis suite à ça, on a continué à évoluer là-dedans, à rencontrer des gens. Puis après, on a traversé l'Amérique latine jusqu'au Venezuela avec une pièce.
Ok.
Pas de théâtre de l'opprimé, mais c'était plutôt du théâtre documentaire sur le thème des mines à ciel ouvert, qui est une plaie dans tous les pays andins. Mmh. Et puis en fait, cette idée nous est venue, ça, c'est pas qu'on a inventé la poudre, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intérêts suisses qui sont présents là-bas.
Ah oui, d'accord.
Et il y a, la Suisse est un paradis fiscal, il y a une grande multinationale qui s'appelle Glencore, qui sous-traite en fait beaucoup d'entreprises. Et
d'accord.
Puis tout près de cette ville de Jujuy, il y avait une communauté indigène qui était sur le point de se faire déloger.
Expulser, oui.
De se faire expulser par l'arrivée en fait d'une grosse mine à ciel ouvert. Mmh.
Ah oui, d'accord.
Et puis en plus, disons que c'était en plus une entreprise appartenant à Glencore qui était sur le point de s'établir là-bas. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? De nouveau, c'est toujours un peu ces questionnements. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que Suisse, pour essayer de mobiliser des gens, etc. Mmh. Donc on a monté cette pièce. On a eu beaucoup de chance durant ce parcours, parce qu'on a rencontré plein de gens très, 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 très bien intentionnés, qui étaient... extrêmement déjà politisé, mais également dans le monde du théâtre, qui nous ont permis de monter cette pièce qu'on a montrée dans plusieurs endroits, en Pérou, en Équateur, en Colombie. Et puis on a évolué en fait à côté en donnant des ateliers de théâtre de l'opprimé.
D'accord.
Alors c'était, j'imagine, assez ambitieux et prétentieux de notre part de donner des ateliers de théâtre de l'opprimé après avoir appris la technique, disons, une année avant. Mais c'est aussi de cette manière qu'on a commencé à apprendre déjà, parce que ça part beaucoup de cette idée de l'éducation populaire, où finalement on avait eu la chance de pouvoir avoir des ateliers auparavant, puis finalement on saura toujours un petit peu plus que la personne qui n'a pas fait d'atelier.
Oui, bien sûr.
Donc c'est dans cette logique d'échange, effectivement j'ai fait plusieurs ateliers de théâtre de l'opprimé, donc je vous propose de vous échanger, je vous propose cette technique là, quoi.
Et donc, qu'est-il advenu de la mine qui voulait ouvrir ?
Ils sont pas venus.
Ah.
Mmh. Finalement, il y a eu beaucoup de mobilisation. Enfin, ça se mobilise beaucoup. Alors c'est pas grâce à nous, mais...
Oui, mais enfin vous y avez participé, et puis non, mais c'est bien qu'il y ait eu aussi d'autres personnes qui aient été révoltées par cela et qui aient réussi à faire que ça ne se fasse pas.
Mais après, après, de toute manière, toute cette zone-là, elle est complètement infestée de mines. Toutes les Andes sont très exploitées. Donc,
oui, et surexploitées.
Voilà, c'était pas là,
les... dans tous les sens du terme. Quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm.
Voilà, mais du coup, c'est comme ça que j'ai un peu mis le pied à l'étrier. Surtout à travers du théâtre social. Uh-huh. Et puis, en rentrant en Suisse à cette époque-là, ben, j'avais plutôt envie de me frotter à autre chose, en fait. Je ne sais pas si plus classique, mais en tout cas, il y a eu d'autres formes. Donc, c'est là que j'ai commencé un petit peu mes pérégrinations à travers différentes formes et stages, jusqu'à aboutir en Argentine avec cette pédagogie Lecoq où j'ai connu Chabi.
D'accord. Et entre-temps, après, tout à l'heure, vous m'aviez dit aussi que vous aviez fait aussi quelque chose en Italie.
En Italie.
Ah, ah là, oui. Non, pardon, je me suis mal exprimé. La partie suisse, où la langue italienne est parlée.
Tessin.
Voilà, pardon, je me suis trompée.
Bah ça, c'était effectivement presque... là, c'était pour le coup très stratégique. En fait, c'est dans la... j'ai fait maîtrise, enfin un master à l'Accademia Teatro Dimitri, qui est au Tessin, et puis qui...
Quelle est sa spécialité? Parce que vous avez eu...
Théâtre physique.
D'accord, ça, voilà, oui. Vous creusez votre sillon, quoi,
c'est ça.
On peut dire. D'accord.
Théâtre physique, et puis en fait, dans ce cursus, le travail de fin d'études, c'est
une création. Ok.
Donc, comme le Covid commençait, j'ai eu quand même la chance de pouvoir faire les cours en présentiel,
ouais.
Mais... étant donné que de toute façon le monde théâtral était mort
à l'arrêt, oui.
Finalement, on a pu créer pendant cette période. L'école donne aussi des fonds,
ouais.
Propose des espaces, donc en fait c'était un bon écrin pour créer, comme beaucoup de monde a fait durant
D'accord.
le Covid. Mais voilà.
Et là, vous avez créé, c'est le toujours là, c'est quoi que...
Mais c'est une autre pièce du coup qui s'appelle À peine.
D'accord, et qui... cause qui... de quoi?
Vous
êtes tous les deux aussi?
On est les deux, et sur scène, il y a également Tamara, qui est ma compagne.
D'accord.
Elle traite en fait des marginalités. La première étape, c'était une recherche sur le personnage de Pierrot, sur la figure de Pierrot.
Ah oui, d'accord.
À travers les âges, et puis ce qui nous a... disons, plus intéressé comme image, c'est un peu le Pierrot de la décadence, de l'époque décadente. Mmh. Ce Pierrot très, très évanescent, enfin, presque transparent parfois, qui peut... qui est agi, en fait, par son environnement.
Oui.
Enfin, qui finalement est une forme de victime, en fait.
C'est une marionnette.
Oui, exactement. Et puis, une des inspirations aussi, moi qui m'a passablement transformé, il y a eu un avant et un après, c'est l'écrivain Bolaño,
oui.
Qui a écrit 2666, dans laquelle en fait une grande partie du livre, tout le livre en fait s'articule autour de la thématique des féminicides, mais vraiment, en faisant un petit peu le lien avec cette figure de Pierrot, c'est vraiment la chosification des corps qui est revenue. Et en fait, toute la pièce se passe dans une décharge à ciel ouvert, dans laquelle, comme Bolaño peut parfois le décrire, mais c'est une réalité en fait au nord du Mexique, c'est des corps qui peuvent apparaître parfois dans un champ, dans une décharge, et qui finalement ne valent pas plus qu'un pneu ou
un
bullet
off. Oui, c'est vraiment le...
Donc en fait, toute la pièce est articulée autour de ce personnage abusé.
Qui est utilisé, qui est exploité.
Exactement. Et c'était en gros son arc
sa
dramatique,
trajectoire.
C'était finalement presque de prendre conscience que ce n'est pas qu'une victime.
Oui, oui.
Et puis qu'elle peut, cette personne, peut prendre son destin.
En main, se relever.
Oui, oui.
D'accord, parfait. Dites donc. Puisque aussi vous êtes éducateur aussi, c'est ça?
Oui.
Vous êtes éducateur, comment dire, dans quel domaine? Avec des petits, des grands,
Avec des adolescents également.
D'accord.
Ça fait pas mal d'années que je travaille dans ce milieu, mais...
C'est dans une institution, c'est...
Actuellement, oui, c'est un foyer. Un foyer en...
En Suisse.
En Suisse. Un foyer sociothérapeutique dans lequel les jeunes sont amenés à vivre une année, plus ou moins.
Ouais.
Une année d'un cycle là-bas. Et donc, il y a aussi une ferme. Il y a une menuiserie, il y a une grande cuisine.
Ah, oui.
Et les jeunes sont amenés à travailler, en fait. C'est un lieu pré-professionnel. Donc, c'est déjà un peu reprendre le rythme, vivre en communauté. Parce qu'ils vivent en communauté.
Il y a des règles, oui, entre guillemets.
Oui. Et puis là-bas, y a beaucoup d'activités artistiques en fait qui sont dispensées par l'institution.
Et dont vous pratiquez le théâtre, j'imagine.
Oui.
Voilà.
C'est ça.
Donc
c'est
ça, se rejoint.
Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que ça fait bien la rencontre entre ces deux domaines. Et cette année, on a monté une pièce avec ma compagne justement.
Oui.
En fait, si vous voulez, dans le programme journalier, les jeunes ont 2 heures d'activités artistiques par jour.
Mm-hmm.
Ça peut être travailler sur le cuir, ça peut être
de la cuisine,
N'importe quoi, de la sculpture, etc.
Et ils sont là parce qu'ils ont été accidentés de la vie, entre guillemets.
Oui, alors largement, ouais. Mm-hmm. Disons que le lieu est, entre guillemets, spécialisé sur l'accueil de personnes qui vivent des addictions,
okay,
quelles qu'elles soient,
mm-hmm,
et des psychopathologies.
D'accord.
Mm. Mais après, c'est un magnifique lieu dans lequel finalement les jeunes qui passent par là-bas, qui ont entre 16 et 25 ans, donc ce n'est pas des tout jeunes non plus,
oui, oui.
Ils sont volontaires pour y être.
Oui.
C'est-à-dire que...
Ah oui, ils ont pris leur destin en
oui,
main, comme vous disiez tout à l'heure.
Oui.
D'accord.
Et donc, non, ouais, effectivement, on a donné ce cours de période de théâtre pendant 2 mois, qui a débouché sur une pièce de théâtre qui a été présentée en public en fin juin.
Et comment s'appelait cette pièce?
Elle s'appelait Kintsugi ou le fil doré du silence.
D'accord.
Kintsugi, c'est comme ça qu'on a nommé le projet de base, en fait, parce que Kintsugi, c'est cet art japonais de recomposition des bols, mais à travers les fils dorés.
Oui, oui, ils ne les jettent pas, au contraire, ils prennent beaucoup de précautions.
Exactement.
Pour le, oui.
Et c'est un peu, alors c'était l'image symbolique
oui,
qu'on voulait donner,
oui,
recoller, mais finalement
oui,
la fêlure n'est pas un manque, mais
oui,
est
oui,
au contraire
oui,
plutôt un attribut de beauté,
oui,
dans certains cas.
Oui.
Et puis le jour, on a demandé aux jeunes quel titre ils voulaient, bon, on ne sait pas vraiment. Puis nous, on avait 2 propositions, c'était Kintsugi ou le fil doré du silence.
Mm.
Et puis finalement, comme on n'a pas choisi, ça
vous
a été
avez...
ça.
C'est le titre à rallonge,
d'accord. Voilà. Mais... c'était l'histoire. Enfin, en gros, on fait pas forcément du théâtre de l'opprimé.
Oui.
On peut utiliser les outils du théâtre de l'opprimé, mais par contre, on a largement utilisé ce qu'on a pu apprendre dans la pédagogie Lecoq.
Mm-hmm.
Puis, on partait vraiment de la notion de rêve, donc c'était beaucoup d'écriture.
D'accord.
On a travaillé aussi des talents, ce qu'on nommait les talents le matin, par exemple, mm-hmm, de pouvoir porter un bâton sur la tête, ou bien avec la main, ou bien de jongler, ou bien de faire des petites acrobaties, mais... pour voir un peu quels étaient leur monde dans lequel ils...
Oui, ils pouvaient évoluer, enfin oui, ils se sentaient le plus à l'aise.
Ouais. Sans les mettre en danger, enfin
oui,
sans
oui,
les mettre en échec. Et puis à travers, c'est globalement eux qui ont choisi le thème,
oui,
c'est
oui,
eux qui ont écrit la pièce, ouais, beaucoup, enfin après on a
oui,
on
arrangé,
a tout ça,
oui,
arrangé, oui, mais c'est vraiment leurs idées en fait.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Non, c'est une chouette expérience.
C'était super, c'était incroyable. Enfin, c'était une pièce qui a duré 45 minutes, qui a été jouée devant 250 personnes. Enfin, c'était un gros défi quotidien parce que, évidemment, on a le trac. Il y a dans les dynamiques de groupe, on ne s'aime pas forcément.
Ah oui, ça peut être compliqué des fois.
D'autant
oui,
plus à l'adolescence.
Oui, c'est...
Mais c'était magnifique, ouais.
Mm-hmm.
Très émouvant. Et je pense que ça donne particulièrement, ça fait particulièrement sens en fait dans ce
oui,
genre de moment de voir, de créer du collectif en fait.
Mm.
Enfin, de créer, c'est pas nous les créateurs, mais disons de
fédérer.
De fédérer et puis de montrer que finalement, en groupe, on est. Enfin, quand ça fonctionne, puis quand
ça
on a un objectif commun,
donner
c'est.
Donner de belles choses.
Ouais. Exactement.
Mm.
Et puis c'est un facteur de.
Mais d'écoute aussi, parce
oui,
que même si les gens ne s'adorent pas forcément. Pour une pièce de théâtre, il faut écouter la réplique de l'autre ou l'attitude, ou
oui,
faire attention à l'autre aussi.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Non, c'est une école de la vie.
Mm-hmm. Et là, vous avez repris vos ateliers ou, ça fonctionne comment en Suisse? C'est calqué sur l'année scolaire, c'est calqué.
Non, pas forcément. Enfin, nous, on a un mandat en fait qui commence
D'accord.
en mai, fin avril.
Ah, ok.
Et qui maintenant a été pérennisé. Du coup, l'année prochaine, on fera ça.
D'accord.
Qui dure 2 mois. Et puis, sinon, à côté, oui, des fois, ça m'arrive de donner des ateliers aussi dans des centres de quartier ou dans etc. On va aussi commencer à très prochainement à donner des ateliers avec des personnes concernées par la migration.
Ouais, c'est donc, l'actualité.
Voilà.
Ouais. Il y a beaucoup à faire.
Oui, en tout cas, c'est très riche.
D'accord. Mais merci beaucoup pour toutes ces choses racontées, ces expériences. Et puis, comme je suis curieuse et que des fois, je suis un peu têtue à ma manière, donc j'ai demandé à Chabi de chanter une chanson en basque, puisque nous n'avons pas l'occasion d'entendre du basque tous les jours. Donc, voilà, pour la musicalité de la langue.
Bien. OK.
Alors, merci déjà de bien vouloir le faire, de répondre à ma demande.
Merci à vous.
Merci à vous. Je vais chanter la chanson qu'on utilise... dans la pièce à peine, d'une autre manière, peut-être, mais c'est ça qu'on chante.
D'accord. Nous vous écoutons.
Oh, peyo, peyo, lo alle naiseta, jine nintzano era. Astalka zaneta, gero, gero, gero. Astalka zaneta, gero, gero, bai. Opeio, peio, logale naizeta, jine nintzano era. Irune zaneta, gero, 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 irune zaneta, gero, gero, bai. O, peio, peio, irundiateta, jire nintzano era. Jose zaneta, gero, 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 Jose zaneta, gero, gero, bai. O, peio, peio, josi diateta, jine nintzano era. Argia duneta, bihar, 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 argia duneta, bihar jingoa.
Merci beaucoup, c'est très gentil, merci.
Merci à vous.
Mais merci à tous les deux de nous avoir accordé autant de temps. Merci à Clélia aussi d'avoir assuré la technique et de m'avoir permis de rencontrer Chabi et Paco, parce que sinon je ne les aurais pas rencontrés. Donc doublement merci. Et bon, merci à tous les trois.
Tu les aurais peut-être rencontrés autour d'un verre ce soir. D'ailleurs, peut-être que s'il y a des personnes qui ont envie de contacter nos invités, vous avez peut-être une adresse mail. Alors attention, hein, on a été précis là-dessus, on n'a pas non plus envie d'être submergé de demandes qu'on ne pourrait pas traiter, mais voilà, si vraiment vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser à eux.
Alors on a un site internet, c'est www.desaires-teatro.com. Et sinon, une adresse internet, c'est desaires.teatro@gmail.com.
D'accord.
Et on a aussi un compte Instagram qu'on ne fournit pas beaucoup. On a aussi une page Facebook.
Vous ne nourrissez pas beaucoup non plus.
Mais vous pouvez nous trouver là-dessus.
C'est pour quoi, non ? C'est pour ça.
C'est pour ça ?
Que Instagram, nous sommes nouveaux.
Oui, nous sommes nouveaux sur Instagram, donc si vous voulez être nos amis, vous êtes bienvenus sur notre page.
Et c'est quoi la page ?
Ah oui, c'est Desaires Teatro.
Desaires Teatro.
Oui, on est très connectés.
Eh bien, merci pour cette interview qui a quand même duré...